Il est 7h et voici le journal de Bénédicte Robin. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La vaccination s'ouvre aux plus de 75 ans. Aujourd'hui, reportage au Palais des Sports de Gerland à Lyon qui fait déjà le plein dès le début de ce journal. La vaccination a chacun son rythme. Certains pays donnent à peine leur feu vert au sérum. En Espagne, on en est déjà à la deuxième injection.
Et puis à peine sorti de l'avion, Alexei Navalny a été arrêté hier en Russie après 5 mois de convalescence en Allemagne. L'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, est accusé d'avoir violé les conditions d'une peine avec sursis.
Les États-Unis, à l'aube du changement entre l'investiture du nouveau président et la menace de destitution du sortant, la semaine s'annonce cruciale. Le directeur de Sciences Po Paris, toujours sous le feu des critiques dans l'affaire Duhamel, nous entendrons des étudiants en colère. Et puis le guide Michelin ne renonce pas malgré la fermeture des restaurants. Il dévoilera bien son palmarès des bonnes tables aujourd'hui. La question du jour ce matin, Guillaume.
Eh bien, pourquoi le gouvernement s'est-il opposé au rapprochement entre Carrefour et Couche-Tard ? Je poserai la question à un économiste, Augustin Landier.
Une nouvelle étape dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 commence aujourd'hui en France. En plus des résidents des maisons de retraite et des soignants, s'ajoutent maintenant les personnes âgées de plus de 75 ans et les patients risquant de développer des formes graves de la maladie. En tout, près de 6,5 millions de Français sont concernés, même si de l'aveu même de gouvernement, ça va prendre du temps. À Lyon, un centre géant a été ouvert dans le Palais des Sports de Gerland. Il a commencé à accueillir ses premiers candidats à la vaccination en fin de semaine. Reportage Mathilde Imberti.
Pas de créneau disponible avant février pour se faire vacciner dans ce Palais des Sports reconfiguré. Soit près de 500 vaccinations par jour, mais ne parlez pas de vaccinodrome aux organisateurs. La prise en charge se fait dans de bonnes conditions, selon le docteur Gian Fatoum, responsable des vaccinations.
Donc la piste fait 2000 mètres carrés et le parcours vaccinal a été étudié pour que chaque étape respecte la distanciation sociale et assure un espace d'attente confortable parce qu'on accueille de plus en plus de personnes âgées.
Oui, on a plus de 75 ans et ça s'est passé parfaitement. C'est formidable. C'est la porte de sortie.
Des sourires derrière les masques chez ce couple lyonnais, chez Antoine aussi qui a emmené sa maman se faire vacciner, Josette, 84 ans.
Oh ben, oui, j'étais bien d'accord parce que bon, je ne veux pas surtout embêter toute la famille parce qu'il y a tous des petits qui pourront venir me voir au moins.
Il y a encore des incertitudes, mais on sera quand même plus tranquille. Quoi. Puis elle pourra recevoir, pour aller jouer à la blotte aussi, c'est important pour elle. Un minimum, un lien social.
Trois autres centres ouvrent leurs portes à Lyon aujourd'hui dans des hôpitaux. Environnement plus classique pour une piqûre que ce palais des sports au gradin de béton, sa buvette et ses panneaux de match, témoins du monde d'avant.
L'objectif du gouvernement est d'atteindre le million de vaccinés d'ici la fin du mois de janvier, entre 2 et 4 millions d'ici fin février. La course à la vaccination, c'est l'enjeu du moment pour tout le monde, entre ceux qui donnent tout juste leur aval au vaccin, comme le Brésil qui vient de donner son accord au sérum britannique AstraZeneca et à son homologue chinois, ou encore le Royaume-Uni qui étend lui sa vaccination aux plus de 70 ans. En Espagne, on est même à administrer la deuxième dose du vaccin en toute fierté et devant les caméras, Mathieu de Taillac.
C'est la star du jour et elle ne lâche pas le micro facilement. Nieves Cabo, 82 ans, est la première espagnole à recevoir sa seconde dose de vaccin contre le Covid. Comme Araceli, la première espagnole à avoir reçu la première dose le 27 décembre dernier, Nieves est l'exemple parfait pour les plans de vaccination des autorités sanitaires, lucide, volontaire et même enthousiaste après la piqûre.
Me encuentro la maravilla. Bien.
Je me porte à merveille, je me sens bien, je n'ai rien senti. J'aimerais dire aux gens qu'ils n'hésitent pas à se faire vacciner, c'est quelque chose de merveilleux. Et ça fait longtemps que ça existe, ce n'est pas une nouveauté. Moi, je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur que ce soit cette saleté qui m'emporte, ça a tué tellement de monde.
Plus de 50 000 morts selon les statistiques officielles, même 70 000 selon le surplus de décès par rapport au nombre attendu par l'Institut National des Statistiques. L'Espagne paye un lourd tribut au Covid. C'est aussi un pays où la vaccination semble bien fonctionner avec une première dose injectée à 1,64% de sa population vendredi dernier. L'Espagne est le quatrième pays d'Europe et le dixième pays du monde. Ce qui n'exclut pas les polémiques. Le gouvernement a décidé de donner davantage de doses aux régions qui ont administré le plus rapidement seulement les premières arrivées. La région de Madrid et le Pays Basque disent avoir voulu conserver des stocks pour la deuxième dose et être victimes de leur prudence.
La prudence aux frontières de la France. De nouvelles règles entrent en vigueur à compter d'aujourd'hui. Il faudra un test PCR négatif de moins de 72 heures pour toute personne en provenance d'un pays hors Union européenne. Des mesures doivent également être renforcées pour les voyageurs au sein de l'Union dans les prochains jours. Les frontaliers sont exemptés.
7h05 sur France Culture, c'est la suite du journal de Bénédicte Robin. Alexis Navalny a passé la nuit en prison.
À peine a-t-il posé le pied sur le sol russe hier que l'opposant numéro 1 au Kremlin a été interpellé à sa descente d'avion à Moscou. Il revenait dans son pays, chez lui, a-t-il dit, après 5 mois de convalescence en Allemagne à la suite d'un empoisonnement présumé. La justice lui reproche d'avoir violé les conditions d'une peine de prison avec sursis. Son arrestation a suscité une vague de condamnation de l'étranger. La France a appelé à sa libération immédiate. Même demande de la part du futur conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, le président élu des États-Unis. Aux États-Unis, c'est une semaine chargée et cruciale qui s'ouvre avec l'investiture du nouveau président élu démocrate après-demain et la fin de règne de Donald Trump qui n'y assistera pas. Lui qui est par ailleurs toujours sous la menace d'une procédure de destitution. C'est donc à la tête d'une Amérique fragmentée et divisé que va venir Joe Biden et une Amérique à qui il a déjà promis un plan de relance à près de 2,5 milliards d'euros.
1 900 milliards de dollars,
1,5 milliard d'euros, pour notamment sortir la classe ouvrière de la précarité et renouer avec ces millions de travailleurs qui se sont détournés progressivement des démocrates, comme en Pennsylvanie, région natale du président Joe Biden, où Claude Guibal s'est rendu et a rencontré Janice, une électrice démocrate.
In this area, factories have closed. The kind of jobs that people thrived with here no longer exist.
Dans cette région, les usines ont fermé. Le type de boulot qui les a fait prospérer n'existe plus, car on n'en a plus l'utilité. Je sais que Joe Biden fera du mieux possible avec l'économie, mais je préférerais qu'il se concentre sur le Covid et la vaccination. Les gens doivent se sentir en sécurité pour que les entreprises puissent faire revenir du monde, que tout le monde se sente en sécurité avec les autres. Ensuite, les affaires reprendront. Les gens veulent revenir à une vie normale. Seul le temps nous dira ce qu'il sera capable de faire, mais j'ai voté pour lui, alors j'ai confiance. Il faut essayer.
Janice, électrice démocrate de Scranton, Pennsylvanie, le défi de reconquête et de réconciliation de Joe Biden. C'est le reportage de la rédaction ce matin et c'est à 7h25.
Les députés français ouvrent les débats sur un projet de loi hautement sensible.
Le projet de loi contre le séparatisme, rebaptisé projet de loi confortant les principes de la République. Plus de 1700 amendements ont été déposés sur un texte qui aborde les questions de neutralité du service public ou contre les mariages forcés ou encore le financement des cultes. C'est dans ce contexte que le Conseil français du culte musulman a approuvé hier une charte des principes de l'islam de France, un texte qui affirme la compatibilité de la foi musulmane avec les principes de la République et le rejet de l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Les dirigeants du CFCM doivent être reçus aujourd'hui par le président Emmanuel Macron. Une enquête interne s'ouvre aujourd'hui à Sciences Po Paris à la suite de l'affaire Olivier Duhamel, le politologue accusé d'inceste par sa belle-fille Camille Kouchner, des faits dont avait connaissance le directeur de la prestigieuse école. 700 étudiants et personnels ont signé une lettre ouverte pour demander sa démission pour n'avoir rien fait. Les signataires dénoncent des manquements graves, Louise Adélaïde Boinard.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les étudiants de Sciences Po, c'est le premier mail de Frédéric Mion. Il affirme apprendre en même temps qu'eux les agissements d'Olivier Duhamel, sauf que quelques jours après, Le Monde prouve qu'il était au courant depuis 2 ans. À ce moment-là, Paul a perdu confiance. Il fait partie du collectif Mion Démission et a écrit une partie de la lettre ouverte.
J'en veux terriblement à mon directeur parce qu'il nous a trahis et parce qu'en fait, bah, tout simplement, il refuse de voir le problème, il refuse de réagir et donc il contribue à l'omerta.
Pour Ambre Dulieu du collectif Les Garces, cette omerta vient des liens trop proches entre les hommes à la tête de l'école, Cet entre-soi empêche les victimes de se faire entendre et devient dangereux.
La manière dont ils expliquent sa vision des faits, elle est très très problématique, c'est-à-dire qu'ils nous expliquent déjà s'être tourné vers Jean Veil, qui est donc un associé d'Olivier Duhamel, et ça pose énormément de questions. Ça signifie que quand on se tourne vers Frédéric Mignon pour dénoncer des faits de violence sexuelle, sexiste ou incestueuse, Frédéric Mignon fait le choix d'aller vers une personne proche du potentiel agresseur, du potentiel bourreau, plutôt que de se tourner du côté des potentielles victimes.
L'enquête qui s'ouvre ne rassure pas les étudiants comme Paul. Ils craignent qu'elle reste superficielle et qu'elle donne raison à Frédéric Mignon.
Nous, on est inquiets parce qu'on sait que notre directeur joue la montre. Il mise sur l'affaiblissement de notre mobilisation pour continuer à faire comme si de rien n'était. Parce que 10 jours, l'administration fait comme si de rien n'était. Donc c'est difficile de savoir si on est face à quelqu'un qui attend que le mouvement s'essouffle. Et c'est vrai qu'avec peut-être un nouveau confinement qui va arriver, on n'est pas dans les meilleures conditions pour mener à bien une mobilisation étudiante.
Ils manifesteront quand même à midi devant leurs locaux.
En pleine crise sanitaire, l'annonce qui passe mal pour les salariés de Sanofi, le groupe pharmaceutique veut supprimer 400 postes de la branche recherche et développement, d'après une information de nos confrères de France Inter. Ces postes sont inclus dans le millier de suppressions de postes qui avaient été annoncés l'été dernier d'après les syndicats. La CGT a appelé à la grève demain. On ne peut pas aller au restaurant qu'à cela ne tienne. On saura quand même qui sont les meilleurs. Le guide Michelin a décidé de maintenir son palmarès 2021 et dévoilera donc sa galaxie d'étoiles à midi, comme prévu Anne-Laure Jumet.
Ce choix, le guide Michelin l'assume pour soutenir la profession en raison justement du contexte. Les chefs se sont battus, ont fait preuve d'audace, de créativité. Il fallait, nous dit-on, les mettre en valeur et inciter un maximum de clients à réinvestir les restaurants, quand bien sûr cela sera possible. Et ce ne sera pas une sélection au rabais, promet le célèbre guide rouge. Les plannings ont été réorganisés. Les inspecteurs du Michelin ont pris leur congé pendant les mois de fermeture et ont travaillé tout l'été, se faisant même épauler beaucoup plus que d'habitude par des inspecteurs étrangers. Résultat, en 2020, il y a eu autant de restaurants testés qu'en 2019, assure-t-on chez Michelin. C'est la base, nous dit-on encore, sinon on ne pouvait pas sortir le guide. La sélection 50 Best a, elle, fait un choix différent. Les 50 meilleurs restaurants au monde ont reporté à l'an prochain leur palmarès, qui aurait dû être dévoilé en juin dernier. Le Michelin présentera lui la liste des heureux élus à midi. Les 3 étoiles ne seront pas inquiétées, pas de psychodrame à attendre. Plutôt en revanche de bonnes surprises, notamment selon nos informations pour 54 chefs qui gagneront leur première étoile.
Anne-Laure Jumet, la météo du grand soleil sur le sud, de belles éclaircies du nord à l'Île-de-France. En revanche, ça restera gris sur l'ouest et les côtes de la Manche avec même un petit peu de pluie. Les températures 5 à 12 degrés du nord au sud, Guillaume Erner.
Merci Bénédicte Robin. Dans quelques instants, on va évoquer ce rapprochement entre Carrefour et Couche-Tard que le gouvernement a refusé.